RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Bienvenue dans le programme des journaux. On commence par le titre. KPU a déclaré que les candidats à la présidence et à la vice-présidence rempliraient les conditions. Le gouvernement encourage l'utilisation de 50% de composants locaux. Le ministre de l'Industrie est optimiste que le succès des Jeux asiatiques de 2018 augmentera les investissements. Pour augmenter les devises, le ministère de l'Industrie accélère l'industrie en aval de CPO. Deux navires de Turquie fournissent de l'électricité à deux provinces. Et au Salon de l'artisanat à New York, l'Indonésie attire avec succès les acheteurs mondiaux. Voici les journaux complets. Le président de la Commission électorale générale, ou KPU, Arif Budiman, a déclaré que les candidats à la présidence et à la vice-présidence, Joko Widodo et Ma'ruf Amin, et Prabowo Subianto et Sandiaga Uno, remplissaient les conditions administratives fixées. Arif Budiman, au bureau de KPU à Jakarta, a déclaré jeudi que tous avaient rempli les conditions attendant la détermination des candidats à la présidence et à la vice-présidence le 20 septembre. Des documents du rapport de richesse de chaque candidat à la présidence et du rapport sur la santé ont également été reçus et annoncés. Pour cette raison, selon Arif, aucun document supplémentaire n'est nécessaire. Néanmoins, les documents pour l'équipe de campagne nationale peuvent toujours être modifiés jusqu'à un jour précédant la campagne qui commence le 23 septembre 2018. Jusqu'à présent, les deux candidats à la présidence et à la vice-présidence continuent de constituer leurs équipes de campagne. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le gouvernement indonésien encourageait l'utilisation de 50% des composants locaux pour le développement des infrastructures, en particulier les chemins de fer. Le ministre Budi Karya Sumadi à Jakarta, jeudi, a déclaré qu'en accord avec le mandat du président Joko Widodo, les projets nationaux doivent utiliser beaucoup de composants locaux. En utilisant davantage de composants locaux, de nombreux impacts positifs sont obtenus, notamment en économisant beaucoup de devises, en absorbant beaucoup de travailleurs locaux et en permettant les exportations. Concernant le projet de train semi-rapide Jakarta-Surabaya, Budi Karya Sumadi a déclaré que sa partie demandait à l'Agence pour le développement et l'application de la technologie de veiller à ce que les composants soient de plus en plus utilisés. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, est optimiste que le succès des Jeux asiatiques de 2018 peut avoir un impact sur l'augmentation des investissements dans le pays en raison de la confiance mondiale en Indonésie. Erlangga a déclaré jeudi à Jakarta qu'outre les réalisations, il y avait une augmentation des investissements, en particulier dans le secteur industriel. Erlangga a déclaré que l'Indonésie était vue par les yeux du monde, en particulier par l'Asie. C'est aussi une opportunité de promouvoir les produits industriels nationaux. Selon lui, le moment d'ouverture des Jeux asiatiques de 2018 a pu s'aligner sur l'ouverture des Jeux olympiques et d'autres grands événements, car la communauté mondiale a constaté que l'Indonésie était extraordinaire. Le ministère indonésien de l'industrie continue d'accélérer le secteur en aval de l'industrie de l'huile de palme brute pour accroître la valeur ajoutée, les exportations et les devises afin d'encourager la croissance de l'économie nationale. Le directeur général de la résilience et du développement de l'accès industriel international au ministère de l'Industrie, Gustiputu Suryawirawan, a expliqué mercredi à Jakarta, le 22 août, qu'il avait essayé de fabriquer de l'huile de palme et que ce dérivé était transformé et vendu à l'étranger. Mais maintenant, cela est en cours de révision pour éviter d'autres problèmes. En outre, l'industrie de la transformation de l'huile de palme a pu contribuer de manière significative à l'Indonésie car elle est comme grand producteur et exportateur mondial. Selon le rapport de l'agence de presse, Antara, le ministère de l'Industrie avait noté que l'Indonésie contribuait à 48% de la production mondiale de CPO et contrôlait 52% du marché mondial des exportations d'huile de palme. Par conséquent, l'Indonésie a la possibilité de devenir le centre de l'industrie mondiale de la transformation de l'huile de palme pour les nourritures non alimentaires et les renouvelables. Deux navires de la centrale de la Turquie fournissent de l'électricité de 155 MW pour répondre à la demande d'électricité dans deux provinces indonésiennes, à savoir Sulawesi du Nord et Gorontalo. Comme rapporté par l'agence de presse Antara, le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondo Kambe, a déclaré jeudi 23 août à Manado que le premier navire d'une capacité de 120 MW fournit de l'électricité depuis l'an 2016 et le second navire a la capacité de 35 MW. Selon lui, l'existence des deux centrales électriques encouragera les investissements et augmentera la croissance économique. Le gouverneur Oli Dondo Kambe espère que les investisseurs n'ont pas peur d'investir dans le Sulawesi du Nord car l'approvisionnement en électricité est suffisant pour répondre aux besoins des entreprises. Il a expliqué que la mobilité plus facile des navires répondrait aux besoins de fourniture d'électricité supplémentaire dans une zone qui manquait d'électricité avant. Un certain nombre d'acteurs économiques créatifs représentent l'Indonésie dans l'exposition de produits artisanaux New York Now à Manhattan, New York aux États-Unis ont réussi à établir une coopération commerciale avec diverses entreprises mondiales. Dans cette exposition, l'Indonésie, par le consulat général indonésien à New York, a réuni 17 hommes d'affaires qui ont présenté des produits culturels indonésiens distinctifs avec une touche contemporaine. Citée par Compass.com, une déclaration écrite du consulat général indonésien à New York, mercredi 22 août, a déclaré que des entreprises telles que Bloomingdale's, Target, Walmart, et d'autres entreprises mondiales voulaient coopérer avec des artisans indonésiens pour présenter des produits artisanaux dans tous leurs réseaux d'entreprises en Amérique et dans le monde. L'exposition de New York Now a eu lieu du 12 au 15 août. En plus d'attirer des achateurs potentiels d'entreprises internationales, Des dizaines d'acteurs économiques créatifs d'Indonésie ont également rencontré directement des centaines d'achateurs potentiels avec une variété de milieux comme des signes d'intérieur, des boutiques, des magasins de détail aux hôtels. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons maintenant le commentaire et en pour le titre, le plan des négociations entre le gouvernement afghan et les talibans. Après un long conflit et toujours refusé de rencontrer directement le gouvernement afghan, enfin avec l'initiative russe, les talibans sont prêts à négocier. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'il avait invité les talibans à se réunir avec le gouvernement de Kaboul à Moscou le 4 septembre. Cette initiative russe ne vise pas uniquement à résoudre le problème en Afghanistan, mais les efforts de Moscou de protéger les intérêts de ses citoyens en Afghanistan. Cependant, la présence des talibans n'est pas inconditionnelle. Les talibans veulent toujours que les États-Unis assistent à la réunion. La Russie a déclaré qu'en plus des deux parties en conflit, elle inviterait également la Chine, le Pakistan, l'Inde, l'Iran et bien sûr les États-Unis. La crise en Afghanistan aurait dû être résolue depuis longtemps si les talibans n'insistaient pas pour qu'ils veuillent seulement négocier avec les États-Unis. Même aujourd'hui, ils hésitent encore à négocier avec le gouvernement de Kaboul. Il y a un changement d'attitude des talibans car ils étaient disposés à respecter le cessez-le-feu proposé par Kaboul lors de l'Eid al-Fitr. Le gouvernement afghan, la semaine dernière, le 19 août 2018, a offert de nouveau un cessez-le-feu aux talibans jusqu'à la célébration de l'anniversaire du prophète. Maintenant, l'espoir commence à se faire sentir avec la volonté des talibans de négocier avec le gouvernement afghan. Les talibans ont actuellement commencé à s'ouvrir aux étrangers par l'intermédiaire de son bureau politique au Qatar. Des représentants des talibans auraient également rencontré un autre responsable du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, Alice Wells. Bien que la réunion n'ait pas été ouvertement admise par les États-Unis font valoir qu'il n'y a pas de solution au problème afghan sans impliquer le gouvernement de Kaboul. Bien qu'il reste encore du temps, le plan de cette réunion est une lueur d'espoir pour la réalisation de la paix en Afghanistan. L'Indonésie a également tenté de réunir les parties en conflit en Indonésie il y a quelque temps. Pourrait-il être que la réunion en Indonésie et à continuer à Moscou a finalement obtenu l'accord des parties? Arrêteront-ils le conflit de 17 ans et entameront-ils le processus de réconciliation? La réponse attend toujours les résultats de la réunion de début septembre. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 24 août. Le 24 août 1941, Adolf Hitler a officiellement mis fin à l'action T4, le programme des nazis visant à tuer systématiquement les personnes handicapées. L'action T4 était un programme des nazis qui a officiellement eu lieu entre 1939 et 1941 et pendant tout ce temps, Adolf Hitler a systématiquement tué 200 000 à 250 000 personnes souffrant de troubles génétiques. Après 1941, ce massacre est devenu non officiel et n'est plus trop systématique. Le programme T4 a été élaboré sur la base de la politique des nazis en matière de santé raciale, à savoir que les Allemands doivent être débarrassés d'éléments raciaux malsains, y compris les personnes handicapées. Ce programme est devenu le précurseur du programme d'Holocauste contre les Juifs sur le continent européen. Le 24 août 1962, Télévisie République Indonésie TVRI est officiellement diffusée. TVRI est la première chaîne de télévision en Indonésie qui a officiellement commencé à être diffusée le 24 août 1962. L'émission inaugurale est une émission expérimentale qui montre la 17e cérémonie de commémoration du jour de l'indépendance indonésienne qui s'est tenue le 17 août 1962 à partir du Palais d'État Jakarta. Cette diffusion est encore sous forme de noir et blanc. Le 24 août 1962, TVRI a diffusé officiellement la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture des 4e Jeux asiatiques depuis le stade principal Gelora Bung Karno. Le 20 octobre 1963, on a publié le décret présidentiel numéro 215-1963 concernant la création de la Fondation TVRI avec le président directeur général, le président de la République d'Indonésie. En Indonésie, chaque 24 août est célèbre comme Journée nationale de la télévision. À la même date, le 24 août 1989, Raja Wali Citra Televisi Indonesia, RCTI, la première chaîne de télévision privée en Indonésie, était inaugurée. Un an plus tard, le 24 août aussi, la deuxième télévision privée indonésienne, Surya Citra Televisi, SCTV, était inaugurée. Le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale a décidé de changer le statut de Pluto. Du précédent, la planète est devenue une planète naine. Depuis la découverte de Pluto en 1930 par Clyde William Tombaugh, les astronomes ont inclus Pluto dans la catégorie des planètes du système solaire. Lors d'une conférence tenue le 24 août 2006 en Tchécoslovaquie, des astronomes appartenant à l'Union astronomique internationale ont décidé que le plateau n'était pas inclus dans la catégorie des planètes. Selon les astronomes, Pluto ne peut pas être catégorisé comme une planète en raison de sa petite taille d'orbite. La taille de l'orbite de Pluto est légèrement inférieure à celle de Neptune. La taille de la planète Pluto est beaucoup plus petite que celle des 8 autres planètes du système solaire. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre le ministère de l'Industrie facilite 26 petites et moyennes industries pour la promotion des produits lors des Jeux asiatiques 2018. Le ministère de l'Industrie encourage les petites et moyennes industries nationales, ou PME, à participer à la grande manifestation de la compétition sportive des Jeux Asiatiques 2018 à Jakarta et à Palembang. Par exemple, 26 PME à Sumatra ont participé à l'exposition du Sud de Sumatra 2018, organisée du 16 au 25 août 2018, au complexe Jakabaring à Palembang. Le directeur général des PME du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, a déclaré à Jakarta récemment que les PME participées étaient dirigées par la direction générale du ministère de l'Industrie et du service de l'Industrie de la province de Sumatra Sud. Il a ajouté qu'en plus d'animer les Jeux asiatiques de 2018, cette exposition est également dans le cadre de commémorer l'anniversaire de la province du Sud de Sumatra. Gatt expliquait que les produits des PME exposés étaient entre autres des vêtements, des meubles, de l'artisanat et des produits alimentaires. Elle a affirmé que l'exposition du Sud de Sumatra 2018 impliquait 660 stands composés d'entreprises, d'agences gouvernementales et des PME. Leurs produits sont entre autres des bijoux, des tissus tissés, des objets artistiques et des souvenirs. Dans la mise en œuvre de cette année, les organisateurs ont ciblé un total de 8 000 visiteurs par jour et une valeur de transaction de 10 milliards roupias. Gatti expliquait, son côté facilite les PME pour la promotion à Palembang parce que le lieu est plus potentiel dans la vente de ses produits aux touristes et aux participants des Jeux asiatiques. Elle a déclaré qu'à Jakarta, les participants avaient un accès plus facile à regarder les produits des PME existants dans divers centres commerciaux. Par conséquent, il a choisi Palembang comme lieu plus potentiel. Gatti estime également que l'événement sportif quadriennal ouvre des opportunités commerciales aux hommes d'affaires nationaux, y compris élargir le marché d'exportation. Par conséquent, elle a demandé à chaque PME de la région de fabriquer des produits de haute qualité conformes à la culture typique, en particulier à Palembang et à Jakarta, comme lieu de l'événement. Les 18e Jeux asiatiques est une activité très importante car elle attire beaucoup d'invités. Les participants des Jeux asiatiques 2018 comprenaient environ 10 000 athlètes et officiels, 5 000 médias, 2500 membres de famille d'OCA ou membres du Conseil olympique asiatique, 5500 délégués techniques, 20 000 volontaires, environ 200 000 supporters et touristes de 45 pays participants. En outre, plus de 3 millions de téléspectateurs locaux assisteront aux Jeux asiatiques 2018 à Jakarta et à Jakabaring, Sport City Palembang. Le gouvernement est déterminé à stimuler le secteur de l'industrie manufacturière pour continuer à accroître la valeur ajoutée, en particulier à travers de la mise en œuvre de la révolution industrielle 4.0. Cela est en ligne avec les efforts de transformer de l'économie vers un pays à la base industrielle. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Temps mettons pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonésie.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans la rubrique du magazine culturel avec moi, Tiwi. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct de www.voinews.id. Aujourd'hui, je vais vous présenter la danse de Rato Charo. Restez toujours avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Les Jeux Asiatiques, le plus grand event sportif d'Asie de 2018, a officiellement commencé le 18 août 2018. La cérémonie d'ouverture des Jeux Asiatiques de 2018 a impliqué jusqu'à 3600 danseurs et 18 chanteurs, ainsi qu'une scène avec la montagne et la cascade au milieu de terrain. Cette ouverture a eu lieu majestueusement et animée. L'ouverture de cette fête sportive quadriennale a débuté par la formidable action du président Jokowi. Il a conduit une moto et a été entré dans le stade principal de Gelora Bung Karno. Ensuite, la performance de la danse traditionnelle acehnaise, la danse de Rato Charo, a réussi à émerveiller des milliers de spectateurs à Gelora Bung Karno. Au total de 1600 danseurs composés de 18 lycéens de tous les lycées de DKI Jakarta ont participé à cette performance de danse. Cette danse est tellement étonnante qu'elle présente différentes formations, telles que des formes triangulaires et des drapeaux rouges et blancs indonésiens. La danse de Rato Charo est une danse de création originaire de la province de Nanggroe Aceh Darussalam, créée par Degam, un artiste acehnaise qui a immigré à Jakarta. Cette danse s'est développée en 2001 à Jakarta. Au fil du temps, la danse de Rato Charo est devenue une danse de matière parascolaire préférée de toutes les écoles de Jakarta. De plus, de 2002 à 2003, le festival de danse a commencé à se tenir une fois par an à Jakarta. Puis, de 2005 à 2006, il y a eu plus de festivals d'art ou de défilés, de sorte que cette danse a été de plus en plus contestée et présentée. Rato Charo vient du mot rato, ou en français « dikir » et « jaro » ou en français « la main ». Les deux mots signifient « dikir » ou « chanter en jouant des mains ». Rato Charo se développe à Jakarta et est dansé par des filles. Le nombre de danseuses de Rato Charo est au moins 10 personnes. La danse de Rato Charo était accompagnée d'un battement de musique rapai, l'un des instruments de musique traditionnelle d'Aceh, est contrôlé par un chef ou chanteur qui chantait des poèmes sous forme de messages en langue acehnaise. Ils ne sont pas dans la ligne, mais ils sont généralement du côté droit ou gauche du danseur. « Le mouvement de danse de la Tohjaro est plus dominant dans les mouvements de la main et les combinaisons de mouvements du corps. Les mouvements de la danse de la Tohjaro sont basés sur la convivialité, la courtoisie, l'héroïsme et la compacité. Cette danse a soulevé les mouvements de danse à Aceh, comme la danse Ratup Musukat, Likokpulo, Rapai Geleng et d'autres danses à Aceh. Cette danse est non seulement performée dans le festival artistique et culturel, et elle est souvent présentée lors d'événements traditionnels et religieux tels que l'anniversaire du prophète ou Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, le musée radiophonique PC2 de l'armée de l'air indonésienne sera développé. Restez tous avec nous sur www.voynews.id. La station de radio PC2 de l'armée de l'air indonésienne, connue sous le nom de station de radio Auri PC2, est située dans le sous-district de Playen, dans la résidence de Gunung Kidul. La station joue un rôle important dans le maintien de l'indépendance de l'Indonésie lors de la deuxième agression militaire néerlandaise à Yogyakarta. La radio a diffusé des informations sur l'offensive générale du 1er mars 1949, lors de laquelle les forces armées et les combattants indonésiens ont attaqué les soldats néerlandais. La diffusion a été effectuée à 2h du matin, le 2 mars 1949, à tous les réseaux de radio indonésiens. Par la radio NBM Tangse, l'émission sur l'offensive générale du 1er mars 1949 a été diffusée à la station de radio SMN de Rangoon. Ensuite, il s'est poursuivi à New Delhi et à des représentants de la République d'Indonésie à Washington DC aux États-Unis. Les représentants indonésiens aux Nations Unies avant la session du Conseil de scrutin des Nations Unies le 7 mars 1949 ont expliqué l'émission. Ainsi, il a sensibilisé le monde international à l'existence du gouvernement urgent de la République d'Indonésie, PDRI. La station de radio indonésienne PC2 ou la radio Auri PC2 est actuellement utilisée comme monument ou musée. Le gouvernement de la résidence Gunung Kidul, la région spéciale de Yogyakarta, s'est engagé à développer le musée comme centre de tourisme éducatif et historique. Le chef du musée central des forces aériennes indonésiennes, Dirgantara Mandala, le colonel Dede Nasruddin, à Radio République Indonésia à Yogyakarta, a déclaré que le musée sera ajouté par diverses installations. Par conséquent, il peut être habillé en tant que destination touristique éducative et historique. À l'avenir, il est également possible d'établir une académie de radiodiffusion dans la zone du musée. Le développement du musée commencera en 2019. Chers auditeurs, le colonel Dede Nasruddin a également expliqué que la mission de radiodiffusion impliquait 26 personnes. Certains d'entre eux sont d'anciens annonceurs de Radio République Indonésia ou RRI. Le directeur de RRI à Yogyakarta a déclaré que le rôle majeur de RRI dans l'histoire du maintien de l'indépendance de la nation indonésienne devait être clairement défini. Par conséquent, la lutte pour le maintien de l'indépendance de l'Indonésie peut toujours être rappelée et prise comme un bon exemple pour les autres annonceurs de RRI. Chers auditeurs, c'est à l'analyse encore pour ce soir avec le titre « Le musée des radios PC2 de l'armée de l'air indonésienne ». Rendez-vous demain à la prochaine édition de l'Indonésie en couleur. À bientôt. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette rubrique va vous présenter les chansons indonésiennes et dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Kalimantan du Sud. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons maintenant la chanson intitulée Berlarut di Sungai Mahakam. Restez avec nous à www.voinews.id ou à 3200 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable.
Yeah.
Voilà la chanson intitulée « Balarut di Sungai Mahakam » chantée par Dinda Effendi. Cette chanson en langue Kutai a le sens de la vie dans le flux de la rivière de Mahakam. Balarut, ou en français prolongé, signifie « calme et emporté ». Alors, Balarut di Sungai Mahakam signifie dériver pour sentir la beauté de la rivière de Mahakam. Depuis l'époque du royaume, la rivière de Mahakam était utilisée comme voie de circulation pour emmener des produits minières tels que le charbon et le bois. Les auditeurs, la chanson suivante s'intitule Kuta Martapura par Haidir Ali. Bonne écoute!
Tak Martapura, ku tak beintar. Tak Martapura, ku tak beintar. Ku tak nang aman tanan, sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi. Nang banyak santri ini, ayolah kasih kita datangi sambil mencari sang mati. Kuta Martapura mandamayakan hati. Pakai baju seragam putih-putih, bulatkan mata jauh cari cahaya iman. Hampir setiap waktu jalanan selalu ramai, hulu hilir mudik bulak balik tulak mengaji. Kada lagi peduli berapa tuha umur, karena saking asyiknya nimba ilmu di situ. Kuta Martapura mandamayakan hati. Pakai baju seragam putih-putih, bulatkan mata jauh cari cahaya iman. Hampir setiap waktu jalanan selalu ramai, hulu hilir mudik pulang balik tulak mengaji. Kada lagi peduli berapa tuha umur, karena saking asyiknya nimba ilmu di situ. Kuta Martapura, kuta beintan, kuta nang aman tanang, sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi, kuta nang banyak santri ini. Ayolah kasih kita datangi,
sambil mencari sang mati. Buka martapura mandamayakan hati.
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson dont le titre est Kuta Martapura, qui a été créée et chantée par Haider Ali. Il est un chanteur de dangdut et créateur des chansons de Banjar. Les chansons de Banjar qu'il a créées ont été incluses dans l'album The Best of the Best Song Banjar Hulu Sungai, accompagné par l'orchestre malaise du groupe Monica de Palangkaraya. Les auditeurs, la suite, je vais vous donner une autre chanson régionale du Kalimantan du Sud intitulée Ampar Ampar Pisang. Bonne écoute! Des célèbres chansons de la région de Kalimantan du Sud intitulée Ampar Ampar Pisang chantée par Heni Purwonegoro. Cette chanson a été créée par Hamiedan Aceh. Cette chanson était chantée de manière ludique par la communauté locale lors de la fabrication d'un gâteau appelé Rimpi à partir de bananes. La chanson Ampar Ampar Pisang raconte le processus de fabrication des rimpi. Les bananes sont giflées ou arrangées. Alors les auditeurs, c'est toute l'édition du magazine musical d'aujourd'hui sur les chansons régionales de Kalimantan du Sud. Et pour la terminer, écoutons la chanson de Rati Marceli dont le titre est Bamalaman Manjatu Manggis. Bonne écoute et au revoir.
Thank you.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.